Good afternoon.
Bon après-midi. Mon nom est Debra Freeman et au nom de La Roche-Pack, je vous donne la bienvenue à cet événement d'aujourd'hui. L'intervention de M. La Roche à Washington aujourd'hui ne pouvait venir à un meilleur moment. Notre pays se trouve au chemin de ce qu'on pourrait appeler l'étape finale de la crise du système qui se déroule depuis 20 ans. Nous nous trouvons dans une situation où presque aucun Américain ne pourra échapper à les effets immédiats de cette crise. D'abord, il y a ces individus qui malheureusement ont été amenés à prendre des hypothèques exotiques. Mais ça, c'est seulement le petit bout de l'iceberg. Ce n'est pas une surprise pour quiconque dans cette salle, puisque M. La Roche a averti depuis très longtemps. Et il a proposé dernièrement, c'est donc une mesure par feu qui se permettant de sauver les banques d'État nationales et des États, et qui permettront non seulement aux gens de sauver leur logement, mais de permettre à notre système bancaire de continuer à fonctionner. Nous sommes d'accord. Alors certains disent nous sommes d'accord pour sauver les maisons des gens, pour geler les saisies. Mais pourquoi sauver les banques? C'est eux qui sont responsables, c'est eux qui font de l'argent. Pourquoi est-ce que la Roche se soucie d'eux? Et je voudrais défier quiconque de dire comment est-ce qu'il pourrait diriger un pays sans une banque. Et je pense que l'expertise de La Roche dans ce domaine est vitale, c'est pour nous tous. Et bien que le développement de la dernière semaine et ces derniers mois n'ont pas été surprenants à ceux d'entre nous, ceux qui sont associés à La Roche, ce qui a été surprenant, ce qui est toujours surprenant, et c'est la passivité des autres à Washington. Il n'y a plus d'excuses qu'il n'y a pas une majorité démocrate, il y en a une. Et cependant, notre direction est complètement paralysée. Heureusement, ce que M. La Roche a pu faire avec l'aide du mouvement des jeunes La Roche est de mobiliser les élus locaux, des comtés et des États pour qu'ils commencent le type d'action nécessaire pour forcer Washington à prendre des initiatives. Et on peut voir ici dans cette réunion aujourd'hui qu'il y a une sorte de dirigeants politiques à travers toute la situation, y compris des dirigeants des organisations c'est important, ont tous endossé l'initiative de M. La Roche pour sauver les logements et les banques. Alors, quand on considère qu'à cet temps-ci, environ 70% des parlementaires ne sont pas en session. S'ils étaient en session, ils seraient amenés probablement à prendre de l'éducation sur ce sujet. Et ce dont nous avons besoin est d'une direction à Washington préparée à faire ce qu'elle n'a pas fait encore, c'est-à-dire de faire face à la réalité. Et je ne peux pas penser. Et je pense que la meilleure personne pour exprimer cette réalité, c'est mon patron, M. La Roche. Je lui donne la parole. Merci. Prenons la chose d'en haut. Au début de janvier, c'est 2001, avant l'inauguration de George W. Bush comme président, j'ai averti que la catastrophe à venir serait que l'économie américaine, qu'il y aurait un échec de l'économie américaine et qu'on irait vers une chute. Et la question que nous devions craindre de l'intérieur du gouvernement américain était que quelqu'un créerait un incident terroriste, par exemple, qui choquerait l'ensemble de la nation à accepter et à se soumettre à d'autres puissances. On était 2001, la récession était tellement là. L'effondrement était là et le système politique était déjà un peu ébranlé. Et puis est venu le 11 septembre. Avec une complicité interne dans les plus hautes instances de pouvoir aux États-Unis, quelqu'un a provoqué cet incident qui s'est appelé le 11 septembre. Cet incident a été fait avec l'aide et la complicité de l'Empire britannique, avec la complicité des éléments de l'Arabie saoudite. C'était un attentat terroriste contre les États-Unis, avec la complicité des gens à très haut niveau aux États-Unis, avec une couverture, un blackout de presse organisé par le même niveau. Je vais dire aujourd'hui des choses qu'on peut dire. Sans aucun doute, je veux dire aujourd'hui qu'il y a eu des complicités intérieures au 11 septembre en faveur de ce grand président de Cheney aux États-Unis. Et depuis ce moment-là, quiconque connaît quelque chose sur notre système sait que je dis la vérité, que vu le comportement du Congrès et d'autres institutions et leur peur, c'est savent aussi que ceci est vrai. Et ce que j'ai dit, c'est donc en janvier 2001, au moment où il y avait l'inauguration du président, j'ai dit qu'il fallait regarder les précédents, que sous ce type de conditions économiques, c'est sous le même type de conditions économiques que Göring a organisé la sortie de Reichstag afin d'utiliser cet incident pour imposer une dictature. Et c'est ce qui s'est passé. Donc personne n'a pu s'en débarrasser après jusqu'au moment où il est mort. Et Cheney, aux États-Unis, est à la tête de cet effort, le vice-président Cheney. Pourquoi? C'est à cause du 11 septembre. Personne ne peut s'en débarrasser. Et ces gens-là ont organisé des actes de terreur, tout comme en Allemagne, les nazis ont organisé l'incendie du Reichstag. Et les Allemands n'ont pas pu s'en débarrasser de ces dirigeants que jusqu'au moment où ils ont été assassinés ou sont morts. Et ceci était organisé avec la complicité de l'Empire britannique, et c'est eux qui ont dirigé cette opération. Et on voit dans la politique actuelle l'ombre de ce type de problème, parce que c'est ce qu'on voit lorsqu'on regarde la campagne présidentielle américaine aujourd'hui. C'est une mauvaise blague, la campagne que nous avons actuellement. Hillary Clinton a dit des choses qui sont un petit peu importantes, mais elle ne connaît en rien les problèmes fondamentaux. Elle ne connaît pas toutes les solutions aux problèmes. Et tous les autres sont loin derrière. Je comprends ce qui se passe. Je sais de quoi je parle. Il y a eu des complicités avec des gens en Arabie Saoudite, avec l'Empire britannique, qui contrôle en partie ce pays. Et un acte a été lancé contre les États-Unis. Et nous sommes en train de vivre sous le feu de cet acte depuis. D'autres faits seront connus plus tard, mais déjà on peut dire ça. Et sous ces conditions, On a vu ce qui s'est passé en 2005. À la fin 2004, Kerry a perdu. Il aurait pu gagner, mais il n'a pas eu la force pour y aller. Des hommes parfois qui essayent de contrôler leur colère s'imposent une sorte de carcan qui aboutit à une impuissance. Et dans ces conditions-là, on a dû faire face à la réélection de Bush. Et son vice-président étant le président réellement. Alors, je suis intervenu pour continuer à assister la campagne démocrate pour orienter le Parti démocrate à défendre la sécurité sociale. Et en novembre de cette année-là, et en janvier de l'année suivante, le Parti démocrate a bien répondu à ce que j'ai proposé et il s'est organisé pour lutter pour s'opposer à la défaite, à la tentative de privatisation de la sécurité sociale américaine. Ceci était pendant 2005, mais à peu près en avril-mai de cette même année, un fasciste du Parti démocrate du collège Middlebury, Félix Roatin, qui est un partenaire de George Shultz dans ce qu'on appelle la révolution des affaires militaires. Et c'est ce qu'on pense lorsqu'on parle de groupes de mercenaires privés, c'est comme Blackwater. Et donc, Cheney, depuis longtemps, ce travail a éliminé les forces régulières américaines, d'éliminer les forces régulières américaines des États-Unis afin d'aller vers ce qu'on appelait la révolution dans les affaires militaires. Une politique qu'on tente d'imposer depuis longtemps, c'est qui suggère d'appeler la politique des SS. Donc, dans la post-guerre, depuis le moment où Roosevelt est mort, il y a eu l'intention de revenir à ce type de système international des SS sous la forme d'un empire mondial anglo-américain, ou des armées de mercenaires privées, des armées privées seraient utilisées pour diriger le monde. Ce que fait Pinochet en Chili, par exemple, ou la terreur dans la stratégie de la tension dans les années 70. C'est tout pour aboutir à cette révolution dans les affaires militaires. Et ceci était un projet spécial de George Shultz, qui fait partie, c'est donc quelque part formellement de l'administration Bush-Cheney, et qui avait développé ce concept de la révolution des affaires militaires. Il y a eu un deuxième programme cette année, c'est en 2005. Ça a été de suspendre l'industrie automobile et on a dit prenons. Et nous avons proposé, nous, de sauvegarder cette industrie automobile en prenant les capacités de machines-outils de cette industrie et l'utiliser au niveau national pour la réorienter vers les chemins de fer, vers les canalisations, vers d'autres besoins, ce qui aurait provoqué une relance réelle de l'économie. Parce qu'il y aurait eu un programme d'infrastructure publique. Et je pense que nous avons besoin de l'infrastructure publique pour créer un marché qui va tirer de l'avant le secteur privé. Cette méthode, ça permettrait de relancer l'économie. Mais donc est apparu Roatin à ce moment-là. moment-là. Et ces gens-là ont dit non, 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 non. Et ce qui est arrivé, c'est que le Parti démocrate, qui avait défendu le système de sécurité sociale, n'a pas défendu l'industrie automobile au nom du peuple américain afin de. Alors, une décision a été faite en février 2006 de laisser l'industrie automobile faire faillite. Et cette décision a été faite au plus haut niveau du Parti démocrate, du Parti républicain, de laisser tomber l'industrie automobile a tombé. Et depuis, nous n'avons pas arrêté d'aller dans la mauvaise direction. L'industrie américaine a été détruite. Et à travers cette nation, il y a du désespoir. Ohio c'est complètement en faillite à cause de ce type de politique et d'autres parties du pays aussi. Et la guerre continue. Et il y a l'intention d'étendre la guerre à l'Iran, à d'autres pays. Et tout ce qu'il y a derrière ça, c'est toujours le 11 septembre, c'est toujours Cheney, c'est toujours Londres. Et la compagnie anglaise BAE d'aéronautique. Et beaucoup de gens aux États-Unis savent ça, quel est le rôle que tout ceci a joué. Je le dis maintenant ici. Beaucoup parlent de ceci en privé, mais à haut niveau, mais moi je le dis. Si nous n'abandonnons pas cette crainte, ce chantage autour du 11 septembre, alors il n'y aura pas de nation américaine. Un autre point pour ce qui concerne l'économie. Le dollar américain est en train de s'effondrer. L'effondrement est bien pire que ce qui apparaît. Parce que donc il y a des mensonges et on ment sur les avoirs. Goldman Sachs fait ce genre de choses. Ce sont des fraudes. Il n'y a pas de renoncement aujourd'hui. C'est une fraude. Certains veulent le croire. Et se prenait le développement récent dans le Parti démocrate. Tous ces candidats sont pires qu'une blague. Ils ne sont pas sérieux. Et regardons, le Parti démocrate, le républicain, c'était faux, mais le Parti démocrate, c'est terrible. Il faut réaliser que la direction du Parti démocrate au Congrès a moins de popularité que Cheney, qui a déjà près du sol en termes de popularité. Hillary Clinton a dit qu'elle n'était pas satisfaite de cette situation, mais elle n'a pas de programme. Elle ne comprend pas les problèmes. Et les autres candidats n'ont pas de programme. Et le dirigeant du Parti démocrate, par exemple Harry Reid au Sénat, Pelosi dans la Chambre, ne donne pas la permission aux élus démocrates de faire quoi que ce soit de puissant. Prenons la façon dont les candidats ont été nommés pour le Parti démocrate en 2000. Avant Iowa, j'ai publié cette analyse sur les candidats. Et là, j'avais attaqué Howard Dean en disant que ce n'était pas réellement un candidat viable, qu'il allait craquer au milieu. Et c'est ce qu'il a fait. Depuis un flippage à la télévision nationale, on l'appelle aujourd'hui Howard Scream. Howard qui gueule. Il a été celui qui a empêché, en ne donnant pas de l'argent à la campagne, il a empêché le candidat de réellement faire campagne. Et il a pris l'argent du Parti démocrate et il a dépensé dans ses propres projets. Et donc le Parti démocrate n'a pas eu vraiment de l'argent pour mener campagne aux dernières élections législatives. Et après, donc, Howard Dean a été rendu chef du Parti démocrate. Et le problème n'était pas simplement son mauvais caractère, son côté caractériel. Mais ça, c'est notre situation. Alors, où en sommes-nous maintenant? À ce point, nous sommes à la fin, peut-être, de la civilisation telle que nous la connaissons. Le système financier international est irrémédiablement en faillite. On ne peut pas réellement prédire la date à laquelle un système va s'effondrer. Les processus économiques dépendent aussi de la volonté des institutions et des individus au pouvoir. Donc, nous ne sommes pas en train d'opérer sur la base dans un monde cartésien où on lance une balle et on peut prédire où elle aboutit. Mais le système économique ne fonctionne pas avec ce type de précision. Les processus économiques ne sont pas de nature statistique. Ce sont de nature, ils sont de nature dynamique, dans le même sens dans lequel les Grecs employaient le mot dynamis, et dans le même sens dans lequel Leibniz utilisait ce terme. Nous opérons dans un univers qui a des lois qui sont découvertes par les hommes et qui sont utilisées, c'est qui deviennent une partie intégrante dont la société fonctionne. Mais dans ce processus, il y a la liberté, c'est le libre arbitre au niveau individuel, au niveau des institutions. Mais les règles que la société a adoptées, qui fonctionnent selon les principes physiques, ces règles fonctionnent jusqu'à ce qu'elles soient changées. Et dans le contexte de ces règles, les gens peuvent faire des choix. Nous pouvons changer la situation. Nous pouvons changer le temps dans lequel se produisent les événements, par la volonté humaine. Mais nous ne pouvons pas changer la direction où dans laquelle s'orientent ces mouvements, dans lesquels ils ont été orientés par les règles de la société. Ce système monétaire international est terminé. Il est mort, ou il est pire que mort, c'est-à-dire. Il n'y a pas de possibilité de sa propre volonté qu'il va revivre, qu'il va renaître. Il ne peut pas avoir une vie très étendue, et ce n'est pas sous une dictature. Ce n'est pas sous une dictature que ça va durer très longtemps. Il y a peut-être des choses qui vont retarder le moment de crise finale. Mais rien ne peut être fait dans les termes de ce système pour l'empêcher de s'effondrer. On peut peut-être rallonger le moment où l'effondrement aura lieu, mais l'effondrement est inévitable à terme. Mais nous pouvons changer le système. Maintenant, les États-Unis ont eu pas mal d'expériences avec des systèmes différents. Le système, ce que représentent aujourd'hui les États-Unis, était unique en son temps et nouveau. Rien n'avait jamais été créé comme ça en Europe, au XVIIIe siècle, ni au XIXe siècle. Ça n'existait pas non plus au XXe siècle. Nous avons un système de gouvernement unique. Les systèmes européens, en général, sont des systèmes de type oligarchique. C'est-à-dire qu'il y a une classe dirigeante, une société oligarchique, au haut de laquelle il y a le système parlementaire. Il y a un parlement qui fait des décisions. Mais s'ils font des décisions, c'est qui offense le pouvoir qui contrôle, et donc ce pouvoir élimine ce parlement. Dans notre système constitutionnel, notre système est supérieur aux autres. Lorsque notre constitution est suivie, est appliquée. Parce que notre constitution est fondée sur certains principes qui sont de nature différente. Et notre système de gouvernement n'est pas un système monétaire, c'est un système de crédit. Lisez la constitution. Comment est-ce que l'argent est créé, c'est par loi dans notre constitution? Donc, il y a une loi qui est présentée à la Chambre des représentants qui autorise, et c'est cette loi qui autorise le Trésor à créer un crédit sous la forme de monnaie ou sous la forme de crédit public. Et ce crédit est ensuite émis à la discrétion du gouvernement et ça forme la base de notre monnaie. Et pour le crédit public, pour, par exemple, lancer des infrastructures publiques, des chemins de fer, des centrales énergétiques, etc., de logements. Le crédit public, notre monnaie, est lié à un système de parité fixe. Parce que c'est ça qui marche le mieux. Nous sommes uniques dans ce sens. En Europe, oublions la Russie, oublions l'Europe de l'Est. Mais l'Europe centrale et occidentale, c'est un système oligarchique où il y a un pouvoir plus haut que le gouvernement. Ce pouvoir est la banque centrale. Et il s'agit de banques centrales de type privé. Et ils émettent du crédit privé. Et c'est ça qui contrôle les gouvernements. Nous vivons dans un type d'empire britannique. Le monde est dirigé par un système d'argent qu'on appelle un système de libre-échange. Ce système monétaire est contrôlé par des banques privées et d'autres institutions du même type. Et les gouvernements sous ce libre-échange ne sont pas censés interférer avec ce système oligarchique. Donc nous sommes sous la dictature de la finance internationale. Et la seule alternative à ça a été le système de Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt a lancé une renaissance, ce système américain fondé sur le crédit public, allant à l'encontre d'une idée d'un système monétaire. Alors le système actuel, pour résumer, aussi longtemps qu'on essaiera d'opérer dans le sens à l'intérieur de ce système, les États-Unis sont finis. Et Howard Stream peut gueuler tout ce qu'il veut, tout ce qu'il veut, il rendra les choses encore pires. Il n'y a pas d'espoir pour une survie continue des États-Unis sous le système actuel. Mais notre constitution, sous notre constitution, avec un président soutenu par un congrès, les États-Unis peuvent changer la vague. Et c'est ce que je suis en train de proposer. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas réformer ce système. On ne peut pas l'améliorer. S'il n'y a aucune façon façon globale, si nous restons dans ce système. Mais ce que nous pouvons faire, le gouvernement fédéral peut agir pour créer un pare-feu, pour protéger les hypothèques et les banques. Les banques qui sont avec des arranges avec l'État. Nous devons les protéger. C'est sous une procédure de mise en règlement judiciaire, sous le contrôle du gouvernement fédéral. Personne ne doit être évincé de son logement. On va résoudre ça plus tard. Aucune banque ne doit être fermée. Les banques associées à l'État. Nous devons les protéger. Maintenant, nous devons choisir ce qui va être payé dans le futur. Nous n'allons pas payer les dettes de la spéculation de casino. Et beaucoup de l'argent, ce qu'on voit actuellement, ce sont des dettes de spéculation. C'est purement de la spéculation. C'est du jeu, c'est des paris, ce sont des paris. On ne paiera pas cette dette. Et alors, moi j'ai ma dette, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ça, ma dette? Non. Non, c'est une dette, c'est un pari, ce sont des paris. Ça ne vaut rien, c'est donc on ne paiera pas. Et ce n'est pas la même chose que la sécurité sociale, celle qui était une dette du gouvernement envers les populations. Celles-ci sont des dettes de Paris. Goldman Sachs vit de ça, par exemple, la compagnie financière, la banque d'investissement. Alors, sous l'autorité du gouvernement, nous pouvons créer un nouveau système. Dans notre cas, nous allons retourner au principe de la Constitution. Tels que sont, ils ont été le mieux exprimés à l'époque de Franklin Roosevelt et de Harry Hopkins pour sauver les États-Unis. Et nous pouvons faire la même chose, d'accord. Et ce qui est demandé ici, c'est de faire des choses que tout le monde peut comprendre. La personne moyenne, le citoyen moyen au niveau des États, sont en train de dire actuellement que les gens au Congrès sont fous, qu'ils sont intimidés par leurs principaux dirigeants comme Pelosi, comme Reid, et qu'ils vont saboter tout ce qui ne plaît pas aux banques ou aux financiers internationaux. Le centre de l'économie mondiale aujourd'hui, c'est la City de Londres. Ce n'est pas la monarchie britannique en tant que telle. Celle-ci est une institution du système. Mais ce n'est pas la monarchie britannique qui contrôle ce système. Ce qui contrôle, c'est un système de type vénitien, des intérêts financiers privés, comme une créature qui assume des pouvoirs collectifs et qui utilise le pouvoir du gouvernement sous son autorité pour obtenir que la société se soumette à sa volonté. Ça, c'est les empires vénitiens. C'était l'empire britannique depuis février 1763. Et nous avons rompu avec les Britanniques sur cette question. Ce que nous devons rétablir, c'est des gouvernements souverains en tant qu'autorité principale de cette planète. Et nous pouvons mettre le système en règlement judiciaire pour faire en sorte que les économies puissent continuer à fonctionner, pour que personne ne soit évincé de leur maison. Pour qu'aucune banque en association avec l'État ne soit vidée, ne soit fermée. Et on s'assure que ce qu'on fait aujourd'hui de bien va continuer. Et nous ferons d'autres choses qui nous permettront de revenir à une économie en expansion. Et la première chose, celle que nous allons devoir faire, c'est de faire ce que nous aurions dû faire en 2005-2006, prendre la capacité de l'industrie automobile américaine et des corporations américaines, prendre la technologie et notamment les machines-outils, où il y a des gens qui n'habitent plus, où il y avait cette usine, mais qui doit revenir, parce qu'il y a toute une population qui doit travailler avec ces compagnies, ces machines outils. Nous pouvons utiliser les restes du secteur de la machine outil, le remettre en fonctionnement sous contrôle, sous le lancement de l'État. Et avec ça, nous pouvons recommencer, organiser une relance. Et nous allons, avec ça, se rétablir nos systèmes de canalisation d'eau. Nous allons créer un système national de rails, de chemin de fer rapide. Et nous utiliserons ce type de projets, ceux qui sont lancés par les États. Nous utilisons ça pour stimuler la relance du secteur privé, la relance de l'emploi, la relance de l'agriculture. C'est comme ça que fonctionne la proposition que j'ai faite, HBPA. Ça doit fonctionner comme un pare-feu de loi constitutionnelle ayant pour but de protéger ce qui est essentiel pour maintenir séparé ce qu'on fait au jour le jour. Donc, nous pouvons organiser la relance de l'économie et à dire à tous ceux qui veulent des paiements qu'on remet ça à plus tard. Et pendant ce temps-là, nous allons agir pour mettre fin à cet empire britannique qui est à l'origine du 11 septembre. Et c'est une fois que ceci sera fait, nous allons pouvoir collaborer entre nations. Prenez le cas d'Israël. C'est un peu plus compliqué que ce qui apparaît à la surface. Mais n'importe quel Israélien qui est sain d'esprit, et il y en a un bon nombre, veut la paix. Il réalise qu'Israël n'a aucun futur à continuer avec cette politique. Chacun de ces Israéliens sait qu'il doit y avoir une paix permanente entre Palestiniens et Juifs. Il y a un président israélien qui avait dit ça, et je le connais très bien. Il est pour moi et pour les Palestiniens, c'est un partenaire acceptable, le président actuel d'Israël, Shimon Peres. Et l'idée d'avoir une solution pour deux États, pour les Palestiniens et les Israéliens, chacun avec sa capitale à Jérusalem, l'une pour l'État israélien, l'autre pour l'État palestinien. Et on doit faire ça en allant d'abord voir la Syrie, qui est prête à faire la paix. Il faut y aller, faire la paix, faire l'accord. On ne peut pas le dicter, mais on peut faire un accord et ça peut marcher. Et ça ferme, ça établit la paix dans la dernière frontière difficile pour Israël. Et le grand problème dans cette région, c'est l'eau. Il n'y a pas assez d'eau. Et comment est-ce qu'on peut avoir de l'eau avec de l'énergie nucléaire? Alors, maintenant, nous pouvons transformer une région entière qui est en crise à cause du problème de l'eau. Et nous pouvons établir la paix entre tous ces partenaires et engager tout le monde à réaliser ce projet pour sortir cette région de l'avant. Peres a indiqué sa volonté de faire ça. Et tout ce qu'il a dit jusqu'ici indique qu'il veut réellement s'orienter dans cette direction. Donc, nous pouvons lancer cette chose-là, alors nous pouvons aller rapidement vers une paix, vers quelque chose qui va reconstruire le monde, comme Roosevelt voulait le faire s'il n'était pas mort. Il y avait l'idée d'éliminer le colonialisme. Et qui, tout ceci était l'intention de Roosevelt, mais Truman l'a empêché. Mais aujourd'hui, le même type de choses pourrait être fait si nous voulons défendre l'économie américaine contre ce qui apparaît actuellement comme un collapse, un effondrement inévitable. Si nous décidons de faire ça, par les méthodes que j'ai indiquées, alors nous pouvons changer le monde. Nous pouvons casser le pouvoir de l'Empire britannique. Et ce qui nous a amené le 11 septembre.
Thank you, Lynn.
Merci, Lynn. Comme nous le faisons normalement dans ce webcast, j'ai une série de questions qui sont arrivées pendant que Lynn parlait, via l'Internet. Des gens ici dans le public ont des questions, et si vous voulez les poser, je vais vous demander.
Just indicate your name and your affiliation. If you wish to ask a question yourself, just indicate to me the topic of your question and call you to the microphone in turn. Need to read the question.
Suffit donc d'indiquer votre question sur une carte et je vous appellerai au micro. On a pas mal de questions institutionnelles qui auront évidemment la priorité, mais il y a d'autres questions qui émergent.
We have a lot of questions that have come in, very specifically on the question of HBPA. And what I've done is I've put together five basic questions about the measure itself that are kind of a compilation of what people have asked. The first one comes from someone in Pennsylvania.
Donc la première question vient de quelqu'un en Pennsylvanie. Il a essayé de tenter en représentant électeur congrès et que il pense l'élu donc lui a fait savoir que le projet de loi pour la protection des locataires des gens contre les crédits hypothécaires. L'élu pense qu'il y a plein de choses dans ce projet de loi qui ne peuvent vraiment pas fonctionner.
These are similar to questions that we've gotten from other congressional offices as well. I'll ask you them one at a time.
Donc, je poserai ces questions un à un. Donc la question est, Monsieur Larouche, si on arrête cette éviction,
si on
commence à accepter que les gens ne payent pas leur crédit, est-ce que toute la population ne va pas en profiter?
The provision is, and I made very clear, and even an idiot in the Congress can understand that, is the way you do it.
La façon dont on s'y prend. Une fois que donc il y a une question, un défaut de paiement, on arrive à une négociation sous la loi. Quelle est la loi? Est-ce que l'imbécile qui pose cette question, est-ce qu'il écoute cette question? écouté ma réponse. Au lieu de payer l'hypothèque, il y aura un accord. La personne restera dans sa maison, payera une somme qui va déterminer. Le but, c'est de maintenir les gens dans leur maison et d'avoir un arrangement. Parce que si on prend l'amplitude, le volume des évictions, on ira vers une catastrophe économique. Et la personne qui s'oppose à ça équivaut à un esprit criminel. Je pense que ça, c'est pour se chauffer, c'est pas mal pour débuter. Un autre bureau du Congrès. Vous dites donc la question, c'est que si on gèle les paiements actuels, les gens vont se retrouver avec une dette encore plus élevée à cause des intérêts que ce qu'ils devront quand même payer plus tard. Est-ce que ce que vous dites n'implique pas une forme d'expropriation des banques? Chaque fois, donc, quand Lynn répond, je tape. Non, mais c'est pas moi. Comme moi, j'ai dit, je le fonds, enfin. Moi, je puis entendre ce qu'il y a en face. Excusez-nous, on essaie de traiter quelques problèmes techniques. Tout cet argent, c'est un casino, c'est un jeu. Il faut absolument maintenir les institutions pour que l'économie puisse fonctionner. On veut reconstruire l'économie. Nous avons des obligations envers les gens qui travaillent, envers la création de richesses. Les spéculateurs boursiers vont paver les rues avec leurs corps. On n'a pas besoin de ces gens-là. À l'époque, on avait avant l'assassinat de Kennedy, on avait une économie rationnelle. On a tout foutu en l'air. Il y avait pas mal de problèmes à l'époque de Truman, dans les années 50. J'ai averti sur la récession de 1957, j'avais raison. J'avais raison à l'époque, j'ai raison aujourd'hui. Mais il faut maintenir l'économie. Et Kennedy a pu le faire. Et après, on l'a assassiné. Après, on a terrifié Johnson. On a fini dans la guerre de Vietnam. Une guerre qui ressemble à la guerre du Péloponnèse, où on a détruit notre pays. On s'est engagé dans une guerre longue en 64 jusqu'en 72. On a repris. Et on l'a repris à la fin des années 70. Non, avec la guerre en Afghanistan, de plus en plus de guerres. On a utilisé le 11 septembre pour déclencher une politique de guerre permanente. Et on est en train de détruire notre société. Il faut se rendre compte. La richesse, il faut bien se rendre compte que la richesse n'est pas créée par le papier. La richesse est créée par la production physique, par le travail, par les conditions de vie, la santé, l'éducation. Ça, c'est la substance. Il faut arrêter. Nous sommes en pleine tricherie. Qu'est-ce que nous ne sommes pas en train de payer nos dettes. Nous ne produisons pas notre propre nourriture. On la prend. On l'achète au plus bas prix possible à d'autres pays. Voilà le système actuel. Les États-Unis, c'est le plus grand escroc de la planète, à part les Anglais. Mais on est en train d'escroquer la planète. Ce que je propose, c'est de retourner à une société productive où nous produisons de la richesse physique et humaine, en termes de soins de santé, d'éducation, où on accroît la capacité de création de richesses par personne et par unité de surface. Dans la dépression actuelle, les États-Unis sont en faillite. Tous les systèmes chancelent sur la faillite. Pourquoi? Parce qu'on est incompétents. Les banquiers doivent payer la facture. Il a escroqué, il a triché. C'est un échec. Maintenant, il nous dit comment on doit gérer l'économie. C'est un crétin. On a besoin de banques solides. Il faut leur donner les moyens de se retrouver, retomber sur leurs pattes. On a besoin de communautés, de villes solides. Il faut que tout ça puisse s'établir. Et revenir à ce qu'on était capable de faire avant la mort de Kennedy. La société est fondée sur des êtres humains. Nous ne sommes pas une économie fondée sur l'argent. Nous ne devons pas être sous la dictature des requins de la finance. Il faut maintenir les banques en fonctionnement parce qu'on en a besoin, parce que les gens ont besoin de maisons. Ils ont besoin de banques. Ils ont surfacturé de toute façon toutes ces maisons. On les protégera. Mais on doit redonner à la société une chance de retomber sur ses pattes. Si nous ne faisons pas cela, si on s'y oppose, on va envoyer notre société en enfer. Une autre question du comité bancaire. Oui, Monsieur Larouche, votre proposition effacerait des millions d'avoirs. Maintenant, beaucoup de fonds de pension ont investi dans le crédit hypothécaire. Donc, ce ne sera pas seulement une catastrophe pour les banques, mais aussi pour les fonds de pension. Maintenant, je vois bien que vous appelez à une sorte de protection. Et en particulier, quel type de protection est-ce que vous préconisez? Est-ce que vous pensez que le gouvernement devrait refinancer les banques qui sont en difficulté? D'abord, le gouvernement doit assurer que la banque continue à fonctionner parce qu'il faut les maintenir en état et il faut que les banques au niveau local puissent continuer à fonctionner et jouer leur rôle. Pensez à cela. Êtes-vous prêt à prendre des mesures? Est-ce que vous êtes prêt à prendre une mesure qui va soutenir ces institutions qui sont menacées? Maintenant, sur la question des retraites, si quelqu'un a une dette parce qu'il a joué en casino, tant pis pour sa gueule. Vous avez joué, vous avez perdu, c'est votre affaire. Et beaucoup de ces avoirs, les jeux, c'est d'une immoralité pure. Une retraite, un être humain a travaillé pour une compagnie, ils ont cotisé à un fonds fédéral de l'État, ça faisait partie de leur salaire, ils ont cotisé, donc on leur doit cet argent. Donc maintenant on dit, on va couper ce fonds-ci, ce fonds-là, qui va assumer les coûts par la personne qui a cotisé toute sa vie pour sa retraite. On va couper les gens qui partent avec les stock options. On doit agir dans l'intérêt de la société où les retraités auront droit à leur retraite. La société est basée sur la stabilité sociale, sur le bien-être des générations. On va tous mourir un jour. Est-ce qu'on est juste... Vous êtes juste un singe? Ou un singe qui meurt et qui est remplacé par un autre singe? Ou est-ce que notre vie a un sens plus profond? Est-ce que ce but n'est pas exprimé dans les générations qui arrivent, qui vont venir? On ne jette pas les gens sur les cimetières parce qu'ils sont retraités. Nous reconnaissons. Est-ce qu'on ne reconnaît pas l'obligation de la société de traiter correctement ce problème, ou est-ce qu'on est des bêtes puantes? Oui, on doit soutenir cet investisseur. On fait un discours. Alors, on dit qu'on va faire injustice à un escroc. Qu'est-ce qu'on fait avec la justice qu'on a fait, qu'on est en train de faire à toute la société? Pour inculper tous les dirigeants pour incompétence, c'était leur boulot. Ou est-ce qu'on dit qu'on a une obligation morale pour le développement cohérent et ordonné de la société, et il faut faire ce qui est juste? La justice, c'est pour les gens présents, vivants présentement, et pour les générations futures. Ce que j'ai vu maintenant, ce que j'ai vu avec la fermeture de l'industrie automobile, il en veut. Qui l'a fait? Les grands spéculateurs, les vautours de la finance, les prédateurs, les fonds de pension. Le premier qu'on doit arrêter sont les hedge funds. S'ils ont quoi que ce soit, on leur prend. C'est une escroquerie. Chacun paye ses cotisations. Mais il faut qu'on protège la population. On doit protéger les générations futures. On doit protéger notre nation. Il y a des gens qui disent non.
Okay, Lynn, this question is from a senior congressional staffer who you know rather well.
Un aide parlementaire qui vous connaît bien vous pose la question. Expliquez, s'il vous plaît, pourquoi est-ce que vous pensez qu'aucun des efforts du Congrès jusqu'à maintenant ont convenablement traité le problème? problème des évictions. Vous dites que le Congrès rend les choses encore pires. Si c'est vrai, dites-moi pourquoi c'est ainsi. Chaque fois qu'une banque des États-Unis continue à refinancer Northern Rock à Londres, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Vous jetez des avoirs des institutions américaines qui sont maintenant menacées. Pour mobiliser de l'argent pour sauver des investissements inutiles. Les gens qui prennent le contrôle de Northern Rock, nous on doit, eux ils donnent 10 cents au dollar et nous on va donner 100%. Pourquoi est-ce qu'on jette du bon argent pour sauver du mauvais argent? Ces gens-là sont en faillite? Qu'ils fassent faillite? Nous, on veut... Eux, ils veulent jeter celui qui a la maison à la rue. Nous, c'est... Nous, on veut les chasser, eux, ces escrocs. Et je le vois, cela. Le problème de ces types dans le Congrès, c'est la cowardice. Et les gens le savent. On traite à deux. On traite le niveau fédéral des élus du Congrès. Ils sont au niveau moral de Cheney. Voilà ce que pense le peuple américain. Ils sont complètement aigris, furibards. Ça vaut aussi peu que Cheney, que Dick Cheney. Et ça s'est aggravé depuis un an. Et ça vient exactement à cause des objections que j'entends maintenant pour cette réforme. Maintenant, si vous descendez au niveau des États, ils ont évidemment aussi un problème générationnel. Il y a trois générations d'adultes à considérer. D'abord, 18 à 35. Entre 18 à 25 et de 25 à 35. Après, il y a de 35 à 50 ans. Ils sont la génération des hippies. Des entre-deux. Ceux qui sont 50 à 65 ans, qui sont des baby-boomers, nés entre 45 et 58, ce sont des 68ards. Ceux qui sont allés sur le pot, sur le shit, ceux qui étaient dans la rue en 68, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arraché leurs vêtements, ils se sont mis à poil. Ils ont tout montré. Ils ont tout montré. Ils ont pris plein de drogues, ils ont tout détruit, tout cassé. Maintenant, c'est des citoyens établis qui s'appellent des membres du Sénat et des institutions établies. Donc, ce que vous voyez là, dans la population, il y a un mépris total. Il n'y a pas d'admirateur de Nancy Pelosi. Les gens se soumettent à elle. Regardez ce que nous, on récolte. La qualité de directionnalité est à un niveau hiérarchique plus bas. À peu près 70% de la population est représentée dans des corps législatifs au niveau des États qui ont pris, et les gens dans ces corps électifs qui ont pris des positions ont pris des positions responsables, tandis que ceux du Congrès fédéral ne l'ont pas. C'est un groupe d'âge plus bas, et ce sont des gens qui ont des revenus moindres, mais ils répondent aux exigences de la population. Le Congrès à Washington représente la haute société au niveau national. Le problème ici, on dit oui, mais on n'y peut rien. Pelosi ne va pas vous laisser faire. C'est quoi ces clowns? La majorité des élus aux États-Unis, au niveau des États, auraient tendance à appuyer totalement la politique que je propose. Le groupe du haut, non pas parce qu'ils sont méchants ou mal intentionnés, mais parce qu'ils sont des cowards, ils sont intimidés, ils ont peur. Regardez la direction du parti, c'est une bande de clowns. Les gens agissent comme des clowns, ils sont morts de trouille. Ils ont peur de respirer. La raison pourquoi Hillary Clinton est populaire, c'est parce qu'elle a quelques tripes. Tous ces mecs qui veulent être candidats à la présidentielle, ils n'ont pas de tripes, ils n'ont pas de cerveau non plus. On a encore un grand volume de questions institutionnelles, mais je voudrais panacher un peu et prendre une question du public ici présent. Vous voulez bien vous approcher du micro, poser votre question. Bonjour, M. LaRouche. J'ai été faire du lobbying au Capitole. J'ai vu des bureaux donc de parlementaires qui ont dû faire face aux évictions. La question c'est, nous on n'est pas dans le comité bancaire, donc on ne peut rien faire. Mais pourquoi vous n'allez pas voir les gens du comité bancaire? Il faut mettre le feu à la queue de certains de ces gens-là. Il faut qu'on le fasse. Il s'agit de sauver la patrie. Et ils sont dégoûtants, ces gens que vous me décrivez dans le Congrès. Ne soyez pas intimidés. Nous savons qu'au niveau des États, au sein du Parti démocrate et à l'extérieur, nous sommes soutenus par ceux qui reconnaissent qu'ils soient dans les institutions dirigeantes ou dans le gouvernement local. Ce sont des élus institutionnels au niveau des États. Nous savons que la majorité des élus dans ce pays sont d'accord avec nous et il faut qu'on le fasse savoir aux échelons extérieurs. Il faut dire, on peut. Si les gens disent comment est-ce qu'on peut faire, il faut répondre, on peut toujours les pendre. La prochaine question vient d'un consultant démocrate à Washington. Eh bien, M. LaRouche, selon les sondages que nous avons faits, Nous, les démocrates, on est presque sûr de gagner les présidentielles en 2008. Voilà. Donc, on voit au niveau du Congrès, c'est ce qu'on n'a jamais vu. L'ambiance générale à travers le pays. Le mood du pays, c'est de virer les vieux cons et de faire la place à des forces d'œuvre. La population américaine a élu des freshmen, des nouveaux élus, pour arrêter la guerre. Rien ne se passe. C'est un secret public. Les élus du Congrès sont parfaitement au courant. Mais vous, vous dites que c'est des couards. La question à vous, c'est... Ils ont peur de quoi? Ils font actuellement pas mettre fin à leur carrière politique. Et j'ai peur. Et j'ai peur d'un renversement total des tendances. Il faut réfléchir un peu plus sur la guerre. Sur l'art de la guerre. Nous sommes dans une guerre. Et la géométrie de la guerre se tourne contre l'ennemi. Est-ce que vous avez la moindre idée de ce qui va arriver dans les 30 jours à venir au niveau des évictions ou dans les 60 ans à venir? Vous avez la moindre idée de quelle proportion ça va prendre, ces évictions et des catastrophes similaires? Prenons le cas de Loudoun County en Virginie. Il y a une bande fasciste qui est derrière le shérif. La candidature du shérif à Loudoun County, c'est Blackwater. Ça, c'est des vrais fachos. C'est pas des gens qui ont l'air fascistes. C'est des gens pinochetistes.
And this, remember, this is minor in the U.S. Blackwater is minor compared to the British operation.
Blackwater, c'est rien du tout comparé à ce que les Anglais ont dans ce domaine. C'est des gens qui sortent pour tuer, non pas parce qu'ils ont besoin, ils ont un ennemi, mais parce qu'ils doivent tuer. Regardez les histoires qui sortent. Ils ne tirent pas parce qu'ils sont enthousiastes. Ils sortent pour tuer, pour créer un effet, comme les nazis le faisaient. Tout à fait identique. Et ces gens-là sont des nazis. Je sais ce qu'ils sont. Je connais leur pédigré. Ce sont des nazis. Donc, dans cette situation, la cible de ces nazis.
Have a lot of people who come from Mexico and similar places who've been working in the construction industry.
Il y a beaucoup de gens qui sont du musique, qui sont venus du Mexique, qui travaillent dans le bâtiment et dans la construction. Cette campagne va créer, à Loudoun County, va créer un lynch mob, une population qui va devenir une espèce de Ku Klux Klan, où ils vont pendre le premier immigré à l'arbre du coin. Voilà le monde dans lequel nous sommes et à lequel nous devons faire face. Tout le monde sait ce qui se passe en Asie du Sud-Ouest, en Irak. Quelques gens font quelque chose. au Congrès, ils n'ont pas les couilles.
They say they're opposed to it, but they're afraid to be caught opposing it when it comes down to Congress.
Ils disent qu'ils sont contre cela, mais le moment venu, ils s'inclinent. Ils tremblotent. Ils tremblotent devant la Banque d'Angleterre et devant des forces comme Blackwater. Il y a des gens à un niveau plus bas d'influence au niveau des États. Ils veulent faire quelque chose, mais on leur dit qu'ils n'ont pas l'autorité de le faire. Ils disent, oui, il faut aller au comité bancaire, sinon on ne peut rien faire. Alors, on peut faire des choses. On peut faire des résolutions et dire publiquement qu'il faut chasser les gens qui font rien.
And you're not willing to demand that of your fellow member of your party?
Est-ce que vous n'avez pas le courage de demander aux membres de votre parti qui siège dans le comité bancaire? Il faut lui dire, écoute mon vieux, soit tu le fais, soit tu es viré du parti. Il faut faire monter la tension dans les... Il va y avoir une explosion sociale aux États-Unis autour de cette question. Et les gens qui disent aujourd'hui, on peut rien faire, on peut rien faire, on peut rien faire, ils le feront.
Okay, for those of you who are listening on the internet, you are listening to a live broadcast by.
Pour vous qui êtes sur Internet. C'est donc une conférence Internet par Lyndon LaRouche, à partir de Washington.
Questions from state legislators and labor leaders. We do have some international questions.
On a quelques questions internationales que je voulais soulever.
Yuri Sark, who represents the World Development Network in Minsk, Belarus.
Il y a une question de Biélorussie, de la Biélorussie, du réseau de développement mondial, le développement au Pakistan et à Myanmar, qui était dans le triangle de développement entre la Chine et la Birmanie. Il se pose donc la question si... Est-ce qu'il y a une autre vision à la Maison-Blanche pour Est-ce qu'il y a une autre vision dans la Maison-Blanche pour une autre politique face à la Chine si ce n'est que la confrontation? Au Myanmar, en Birmanie, vous avez un gouvernement plus ou moins soutenu par la Chine.
So you have, therefore, you have a Buddhist organization.
C'est pour ça que vous avez une organisation bouddhiste.
In Pakistan, Pakistan is being chopped into
pieces. Qui a organisé l'insurrection.
It's being chopped into pieces, essentially.
Pakistan.
All this stuff is done by the Buddhists.
Pakistan est victime d'une tentative de démembrement par les réseaux anglais. De l'Empire anglais. C'est les Anglais qui gèrent la boutique. Qui contrôle les bouddhistes au Myanmar? C'est les Anglais. Qui contrôle les problèmes du Pakistan, c'est les Anglais. Regardez l'histoire de la Compagnie des Indes orientales qui avait des armées privées et qui a été créée par et pour l'Empire britannique. Prenez le cas d'Al-Afghani, prenez le cas de Sykes-Picot. La confrérie des frères musulmans est une opération de renseignement anglais. Depuis 1998, voilà ce qu'il faut confronter dans cette partie du monde, en Asie, surtout dans la partie sud de l'Asie. Il y a énormément d'opérations du renseignement anglais. Je suis très au courant, très au fait. Voilà l'essentiel. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les renseignements américains étaient divisés entre les patriotes et les pro-anglais. Alan Dulles, c'était du côté des Anglais. Si vous regardez ce type de problème, toute l'Asie est en chaos. À part la Corée, où il y a un développement très prometteur. La Chine, pour l'instant, s'abstient de prendre des positions parce qu'ils sont trop dans des problèmes intérieurs. Les Russes aussi ont un sens pas trop mal de cette situation. Est-ce qu'il faut confronter les empires britanniques, tel que moi je le spécifie? Et c'est ça qu'il faut analyser. Regardez la question de Nord-France. Pourquoi, mon Dieu? Pourquoi est-ce qu'on injecte du bon argent américain pour sauver? Pourquoi est-ce que Goldman Sachs se mobilise pour sauver Northern Rock? Pourquoi est-ce que nous, on sauve la Banque d'Angleterre? Est-ce que l'Angleterre mérite d'être sauvée? La question est donc, quelles sont les actions positives? Moi, mon point de vue, c'est de dire quelle devrait être la politique des États-Unis. Et donc, je l'ai rendu très clair. On pourrait très bien aller voir Poutine et dire, voilà, on veut une vraie coopération avec la Chine. On a des problèmes, mais on veut une coopération. Sur cette base-là, on aurait un concert de nations qui serait la base, la plateforme pour lancer une réforme des institutions monétaires internationales. D'autres pays seraient tout à fait prêts. L'Allemagne serait probablement le premier à joindre. L'Italie suivra. D'autres parties du monde seraient immédiatement de la partie. Parce que les gens aiment être près du pouvoir. Voilà la façon d'approcher la question. Le monde, la terre entière est déstabilisée par l'Empire britannique ou l'Empire britannique. Donc plutôt de réagir à des chances partielles ou de déstabilisation ici ou là, la question c'est de passer à des contre-mesures et de voir les choses d'en haut et de définir un intérêt commun pour avancer. Le système financier actuel est une disgrâce totale. Et que tout le monde qui a un cerveau sait que le système ne pourra pas durer. Et qu'il faut mettre en place un nouveau système financier international. si vous faites ça, vous pouvez demander à tout régime du monde de changer, être contre quelque chose parfois nécessaire, mais être contre les choses, ce n'est pas une façon de faire de la politique. Faire de la politique, c'est être pour quelque chose. Donc, c'est quelque chose contre quelque chose, d'accord? Mais vous, c'est pourquoi? Voilà. On ne peut pas juste passer son temps à essayer de trouver le mauvais, essayer de le neutraliser un par un. Il faut définir un intérêt commun. Et en avançant vers cet intérêt commun, on peut traiter tout le reste.
Okay, we had a question that had been submitted by the Economic Daily of China, but I believe that you did just answer.
Le quotidien économique chinois a également soumis une question, mais je pense que vous venez d'y répondre.
Germany from the Department of Monetary Policy at the University of Würzburg.
Le département de politique monétaire de l'université de Würzburg en Allemagne pose la question suivante. Monsieur Larouche, j'ai une question sur le dernier communiqué de presse que vous avez fait, la conspiration de la folie. Beaucoup de conseillers de Goldman Sachs ont été nommés des conseillers auprès des politiques, et vous dites conspiration de la folie. Est-ce que vous pensez que tous ces gens-là sont des imbéciles et n'ont aucune connaissance de la situation du monde, ou permettez-moi de suggérer autre chose, qu'on ne peut pas imaginer. Est-ce que ce n'est pas imaginable que ces gens-là veulent eux-mêmes gérer un crash contrôlé et qu'ils veulent rester, être au sommet des choses, contrôler un monde post-crash. Ils peuvent acheter des matières premières, mais de contrôler des choses. Donc, ils ont tout à fait intérêt à être Alors, votre observation sur la nature de cette alliance actuelle. Mais donc, il faut après voir les implications. La première ironie, c'est que ça ne marchera jamais. Que c'est une conspiration dans la folie, qu'elle ne marchera pas. On a un type qui veut prendre le contrôle d'un bateau et dit, comment vous allez faire? Il dit, je vais faire un trou dans la coque du bateau. Je connais ces gens-là. Je suis un vieux dans le métier. Et leur instinct, c'est leur façon de vivre. Le problème, c'est une décision individuelle de leur part. Ils ont des groupes, ils ont des façons de se parler, de se rencontrer. C'est la bande de Goldman Sachs. Tu connais sur des années. Tu as raison. Donc, quand quelqu'un vient avec un deal de leur groupe, il dit OK, on y va, on se connaît, on y va. Mais ils ne comprennent rien au fonctionnement réel du système monétaire actuel. Ce n'est pas qu'ils sont juste cupides. Mais comme vous le soulignez, ce qu'ils veulent, c'est prendre le pouvoir. Le problème, c'est qu'ils sont incompétents. Et tout ce qu'ils essaient, comme, va finir, tout ce qu'ils tentent de faire, va finir dans une catastrophe encore plus grande. De mettre sa tête dans la bouche du caïman. C'est un grand jeu. Tout le monde joue. Il faut regarder l'histoire de l'Empire britannique. C'est le grand jeu. C'est pas juste un jeu petit. L'Empire anglais a organisé la Première Guerre mondiale. Personne n'a été coupable, sauf les Anglais, pour avoir planifié la Première Guerre mondiale. Et la bande à Teddy Roosevelt aussi. Parce que il y avait une série d'économies qui se développait sur le modèle américain, comme le Japon. Il y avait des chemins de fer qui se développaient en Russie, le Transsibérien, en Allemagne, la barque d'Albam reliant Berlin à Bagdad. Tout cela tendait à intégrer les grandes parties de l'Eurasie. Et ce processus d'intégration continentale était vu comme une menace contre le pouvoir maritime qui était le fondement de l'Empire anglais. Donc les Anglais ont monté des pays les uns contre les autres, se détruisent entre eux.
You have to see this kind of mentality. They do not choose up sides, fair teams, one team against the other. That's all. That's not the way they play.
Ils jouent pas une équipe contre l'autre.
Is to betray your ally.
Le jeu anglais, c'est de trahir son allié, de monter son allié pour la destruction.
Ce que nous voyons maintenant, c'est que la Banque d'Angleterre est le centre qui organise cette fraude autour de Northern Rock. C'est une grosse fraude, c'est une escroquerie. Ces gens, je les connais. Ils font ce genre de choses. C'est la façon dont ils pensent. Ils pensent comme des crocodiles, comme des caïmans. Nous avons maintenant une série de questions qui viennent de gens qui sont dans le front de cette bataille, c'est-à-dire des législateurs d'État qui se battent pour se faire passer la proposition de M. LaRouche. C'est le sénateur de Nevada qui a le plus grand taux de saisie de tous les États-Unis. Harry Reid a dit qu'il ne prendrait aucune action contre le hedge fund durant cette session. Votre jugement, est-ce que vous pouvez adresser la question de ce que impliquerait le manque d'action durant cette session de congrès contre le hedge fund par rapport à la hedge fund? Je pense que Harry Reid est prêt à prendre sa retraite. Ce que ces gens font, c'est Harry Reid. Il a ses propres préjugés, qui n'est pas son propre crédit. Mais potentiellement, il est à la fin de sa carrière au Sénat. Et il est prêt à dire je suis presque prêt à quitter. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il dit ça au chef. Et je l'ai vu changer c'est pendant toute l'année 2005 que j'ai travaillé avec lui. Et je l'ai vu changer, je l'ai vu se retourner. Il a été atteint. Et il a choisi d'aller exactement à l'opposé de toutes les questions importantes par ailleurs. Et il s'est retourné contre moi de façon très claire. Mais et il a tout vendu. Pelosi, c'est quelqu'un de, c'est un poisson mou. C'est, elle n'est rien en fait. Mais elle est à la tête de cette institution. Et elle est furieuse que d'autres veuillent réagir.
And she comes from a family with a certain reputation.
Elle vient d'une famille qui a une certaine réputation.
Have their hands in the public till, but never too much involved in the public interest.
Jamais trop impliqué dans l'intérêt du public.
Not someone who is.
Donc voilà, c'est pas des gens. C'est pas quelqu'un qui est malicieux, qui a fait des grands accords. Mais il y a un certain nombre de pouvoirs qui ont dit à Harry Reid, non, non, Harry. Alors il a dit, OK. Il a pris. Je pense que c'est quelqu'un qui a décidé de quitter. Et de sortir avec une bonne retraite.
Now, in Speaker Pelosi's defense,
en défense de Pelosi, je pense qu'il faut tenir son médecin responsable. Parce que.
Some training in the health field, and I know that chronic pain can really.
Je sais que c'est une douleur chronique, des douleurs chroniques peuvent atteindre le caractère de façon sévère. Et donc, c'est pour ça que je ne suis pas trop sévère avec Pelosi. Peut-être elle devrait juste prendre des pastilles pour la douleur. La prochaine question. Vient de la représentante Juanita Walton de St. Louis, Missouri. Mais avant de poser cette question, je voudrais quand même dire que bien que la réponse de façon générale à cette mobilisation que nous avons pour imposer cette loi pour empêcher les saisies a été fantastique, c'est aussi le cas que la représentante Walton de Missouri et le représentant de Harold James de Pennsylvanie ont vraiment dirigé cette lutte et ont eu un courage très, très grand pour la pousser de l'avant et une très grande résolution pour adresser leurs électeurs en direct. Et j'ai beaucoup d'admiration personnellement pour les deux. Et on les applaudit. Je pense que certains de leurs soutiens sont ici aujourd'hui. Alors, la représentante Walton pose la rouge de question. Comme vous savez, j'ai suivi de très près cette crise de maison. C'est vrai. Mon mari est un avocat de faillite. Il a averti les gens qui allaient vers cette banqueroute. Pour ce cas, les paiements ont doublé les gens. Mais ils le font quand même parce qu'ils pensent que ce n'est pas eux qui vont perdre leur maison. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce que des gens, des citoyens moyens, ont aussi parlé dans cette direction. Pourquoi Est-ce que nos dirigeants nationales mettent leur tête dans le sable, sachant ce qui se passe? Ils refusent de faire quoi que ce soit pour arrêter la crise. Donc ce n'est pas seulement des mauvais citoyens, mais c'est vraiment le Congrès qui s'assume et qui ne fait absolument rien pour empêcher cette crise. Encore moins cette résolution pour les gens. J'ai donc présenté cette résolution auprès du Congrès des lois des législateurs de l'État et je me demande si vous avez d'autres idées de ce que nous pouvons faire de plus. Le problème ici est un problème sociologique. Et avec l'avantage de mon grand âge, je peux le voir. Il faut comprendre ce qui s'est passé à la moralité de cette société depuis les années 30 et surtout depuis la mort de Franklin Roosevelt. Regardons à ce qui est identifié aujourd'hui comme les choses les plus importantes de la moralité poussée par la moralité. Quel groupe définit qui est la personne qui a du succès? Essentiellement, c'est le même fou. Ce sont les mêmes fous qui gueulent dans les villes de Manhattan dans les années 30, mais des filles de classe moyenne nées en... Donc, c'est pas dans les années 30, mais c'est dans les post-guerre, la génération de baby-boom. Ceux qui ont aujourd'hui 60 et 75 ans. Cette génération, depuis 1968, sont venus à dominer les tendances culturelles et sociales, c'est donc la vision des populations aux États-Unis et en Europe. C'est le syndrome du baby-boom. Baby-boomer, c'est-à-dire l'écologisme, c'est le contre la technologie, et notamment la technologie nucléaire, contre la science. C'est complètement irrationnel. Et ils pensent que l'autorité ne dépend pas de la vérité, mais de l'opinion. Dans une société qui est en bonne santé, comme le pape l'a dit récemment aussi, la vérité le standard doit être la vérité et c'est le fait que chaque individu cherche la vérité. Mais le sophiste dit, c'est pas la vérité, mais c'est le sentiment qui prévaut, le plus populaire. Par exemple, pourquoi est-ce que quelqu'un est beau? Parce qu'elle est populaire. Pourquoi est-ce qu'elle est intelligente? Parce qu'elle est populaire. Pourquoi c'est ceci ou cela? On a des stéréotypes qui sont populaires. Et c'est eux qui deviennent le standard pour ce que doit être le comportement de chacun. Et les gens sont intimidés. Parce qu'à la place de ce qui est bien ou mal, aujourd'hui, c'est donc ils acceptent cette forme d'opinion populaire. Et si on va contre l'opinion populaire, on a à tous les coups tort. Et si on... voilà le problème tel qu'il se pose. Maintenant, la seule façon dont on peut traiter ce problème, il n'y a pas cette recette magique pour le succès. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec nos vies? De quel côté sommes-nous? De quel côté est-ce qu'on va sortir? Est-ce que vous allez être du côté des gens ou bien du côté des cochons? Si vous dites que les cochons sont les plus populaires, là vous serez un cochon. Vous voulez une image populaire. Et le problème, c'est dans notre société, des gens qui ont un sens réellement moral de leur vie, ont accepté donc de laisser la voie à la popularité de ce type, cette popularité des baby boomers. Alors, nous devons aller avec le courant pour survivre, et ça, c'est la mentalité. Alors, l'idée de ce qui est bien, de ce qui est mauvais, de ce qui est véritable, de ce qui est faux, ça ne veut plus rien dire. Tout ce qui compte, c'est est-ce que vous êtes populaire? Et il faut penser à comment les 68 heures ou les baby boomers fonctionnent. Dans l'Université de Columbia et dans d'autres campus, en 68, j'avais écrit un document. Donc, il s'intitulait le contrôle social et le fascisme, parce que ce que je vois hier dans la gauche, et ce que nous connaissions des années 30, lorsqu'il y avait une grande grève à Berlin où des membres du Parti communiste et des partis nazis s'échangeaient leur adhésion aux différents mouvements. Et ceci était populaire. Et ce que j'ai vu dans la nouvelle gauche à cette époque-là, donc dans les années 60, c'était le type de choses qu'on a vu dans les grèves de Berlin dans les années 30. Et ce que j'ai vu dans le campus en 1968, pardon, 68, c'était cette même idéologie. Regardez les âges, regardez la vision culturelle des membres du Congrès qui ont entre 50 et 65, c'est le problème. Et il n'y a qu'un remède à ça. Le remède est la vérité. C'est vraiment se battre pour la vérité. Et le remède est possible dans un temps où la sophisterie, les sophistes sont détruits. À un moment où tout le système est menacé d'effondrement. Donc il faut que dans cette période-là, on décide ce système qu'on a adopté, qui est détestable, et il faut contester la popularité en tant que moralité. Et c'est là qu'on reviendrait vers la vérité, c'est là notre seule chance. Prendre ces questions chaudes et se battre pour ça, parce que si on ne se bat pas pour ces questions-là qui sont réellement fondamentales, on va perdre nos caractères. Et le temps viendra, comme dans l'histoire du passé, lorsque l'action véritable aura la force pour imposer la vérité à nouveau. Et je crois que c'est cette période dans laquelle nous sommes aujourd'hui.
Okay, the next question comes
from... La question suivante vient du représentant Gonzalez de Michigan. Avant de la lire, si vous avez des questions, Monsieur Larouche, pour Monsieur Larouche, que vous vouliez les poser vous-même ou que vous voudriez que ce soit moi qui me pose, écrivez-les dans un petit morceau de papier. Le représentant Gonzalez dit, Monsieur Larouche, notre pays est vraiment dans une crise. Et c'est ici, dans l'État de Michigan, où on voit ça le mieux. Je représente, je suis Flynn, qui était auparavant cœur de l'automobile. L'État, comme un tout, c'est une crise combinée. De biens immobiliers, à saisir les maisons, sont au chômage, et les revenus des gens baissent massivement. Et donc, notre gouvernement fait session après session pour essayer de équilibrer le budget. Et c'est très important pour nous que vous poussez ce dialogue au niveau national. S'il vous plaît, comment est-ce que dans les, sur les indications précises sur l'état de Michigan, vous pensez que la crise qui est spéciale est pire ici qu'ailleurs, ou bien on a le même type de crise dans des états comme la Californie? Encore une fois, laissez-moi recommander que lorsque vous traitez des questions de ce type, ne traitez pas des aspects négatifs, mais surtout des positifs. Alors, prenons la région de Michigan et c'est de l'ouest de New York et de l'Ohio. Et regardons maintenant les fondements de l'industrie automobile aussi. Alors, qu'est-ce qui est positif là? Qu'est-ce que nous avons comme arme possible? Non pas qu'est-ce qui nous manque, mais qu'est-ce que nous avons? Parce qu'on doit construire avec quelque chose que nous avons. Alors, ce que nous avons dans cette région, c'est une concentration de ce qui a été la plus grande capacité de production de l'industrie du monde, centrée autour de l'industrie automobile. Ce n'était pas simplement l'industrie automobile, c'était une industrie automobile, la direction de machines très performantes, des machines qui construisaient des centrales nucléaires, de tout. Parce que l'idée, c'était de faire de la production avec les machines qui reflétaient les niveaux scientifiques et technologiques dans la situation. Et donc, on avait des scientifiques, des ingénieurs de centrales nucléaires, ceux qui travaillaient avec des gens qui travaillaient dans les autres domaines. Ensemble, ils ont développé les machines dont la question dépendait. Donc, les locomotives, les tracteurs, les produits, c'est ici dans cette région. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens dans cette région ont la culture, ce qui est encore une culture productive, mais en train de se perdre. Je pense qu'il n'y a qu'un seul remède au-delà de cette loi que je propose, et de revenir à 2005, de revenir à cette proposition que j'avais faite en février-mars de 2005. Là, le gouvernement fédéral, j'avais proposé, le gouvernement doit acheter cette partie de l'industrie automobile qui a cette possibilité de faire des machines. Et si nous ne produisons pas autant d'automobiles, d'accord, on en produit trop. Nous n'avons pas besoin de plus d'automobiles. Ce dont nous avons besoin, c'est d'autres choses. Ce que nous devons faire, nous avons besoin des centrales d'énergie. De centrales nucléaires. Nous devons en avoir des milliers d'entre elles parce qu'il n'y a pas de possibilité de faire face aux défis énergétiques. Nous avons besoin des centrales haute température. Nous devons nous libérer du pétrole. Nous voulons faire des combustibles à base d'hydrogène.
Not bad, huh? It's quite a pollutant. All right. Then we need the power.
Nous avons besoin de la puissance. Nous avons besoin de reconstruire notre fluvial. Et c'est partout aux États-Unis, on n'arrive plus à avoir de l'eau fraîche, potable. Nous devons rétablir ça, nous devons rétablir des opérations de nettoyage. Nous avons besoin du rail, on ne veut plus des embouteillages. Nous ne voulons pas concentrer toute la population dans quelques agglomérations, comme autour de Washington, où la vie est un embouteillage permanent. Il y a des régions entières qui ne produisent plus rien. On ne peut dire que des familles qui vivent dans ces zones. Rien d'autre pour disperser la population et créer d'autres centres de production industrielle. Nous devons conquérir un nouveau atmosphère. On n'a pas envie de vivre autour de Washington, D.C. Et laisser tout le reste devenir des zones sinistrées. Il faut rebâtir cette nation. Il faut faire ce genre de choses. Et aussi rétablir l'ingénierie pour faire toutes sortes de systèmes, construire de nouvelles industries dans diverses petites zones, développer des régions. Il n'y a pas à organiser de grandes conglomérations ici ou là. Mais il faut développer des instances de compétences. C'est le type de monde que nous devons construire. Et donc, nous prenons cette région à l'ouest de New York, ce qui était Buffalo auparavant, Ohio, le nord de l'Ohio, Michigan. C'était un noyau. Aussi Missouri, c'est qu'il y avait une capacité aérospatiale énorme qui a été fermée. Donc, ce que nous avons besoin de faire, c'est de regarder l'ensemble des pays en termes de ces noyaux de développement, des régions dans lesquelles il y a des ouvriers qualifiés, où il y a la culture et d'une qualification. Et c'est établir une collaboration entre ces noyaux de passer par là et utiliser ce développement. Pour encore d'autres industries privées. Donc, n'orientons pas cette région aujourd'hui. C'est comme une zone de ghetto, de misère. Mais regardons plutôt cette zone-là comme ayant une population à développer les compétences pour un travail qualifié. Donc, commencez par ce que vous avez et ne pensez pas à ce qui vous manque. Lynn, celle-ci est une question. Eh bien, c'est un think tank qui est basé à New York, sur la Rouche. À la récente réunion pour l'initiative globale à New York et ailleurs, l'ancien président Bill Clinton a déclaré que les pays en voie de développement doivent avoir le droit de développer l'énergie nucléaire pour des raisons pacifiques, pour générer de l'électricité. Mais ici, aux États-Unis, où nous sommes bien équipés, il y a toujours une réticence à aller vers le nucléaire, bien que la plupart des gens qui sont impliqués dans ce travail veulent. Et ceci est centré basé sur le fait que les gens n'ont plus confiance dans le public pour maintenir cette production. Actuellement, il y a un scandale qui a éclaté en Pennsylvanie où des cassettes de vidéo montraient les gens, ce que faisaient les gens dans cette liste. Donc, je me demande si on peut aller vers le type des grands projets nécessaires pour reconstruire la société, pour revitaliser l'industrie, sans. Quelles sont tes pensées là-dessus? Comment est-ce qu'on pourrait réguler cette capacité? Ce que tu as, c'est un morceau de bêtise, un morceau de bêtise qui a été porté par quelqu'un qui s'appelle Clausius au 19e siècle, quelqu'un d'autre, ont développé la deuxième loi, l'idée de la deuxième loi de la thermodynamique, qui est une fonte. Il n'y a rien tel qu'une quantité d'énergie. On ne peut pas parler de quantité d'énergie. plan de l'énergie, ces mesures comme un accroissement de la densité des flux énergétiques. Par exemple, les spécimens donc a besoin du soleil pour se chauffer. Maintenant, le soleil, c'est un processus de thermonucléaire, de plutôt thermonucléaire énorme, avec une température énorme à l'intérieur. Et cette chaleur est irradiée par le soleil et nous atteint comme chaleur de façon très diffuse avec un flux énergétique, la densité de flux énergétique très, très peu dense. Donc cette lumière du soleil irradiée est très utile si on l'utilise de façon correcte. Il y a quelque chose qui s'appelle des molécules qui se rassemblent. Alors, il y a des petites molécules, elles absorbent la radiation solaire qui peut être calculée en calories dans un processus. Et ils accumulent cette puissance qui est ensuite transformée par des molécules de magnésium dans une densité énergétique plus grande, telle que l'eau et la production de toute la vie végétale. L'effet de tout ceci est que maintenant la vie utilise cette lumière pour générer la chlorophylle, pour générer de l'oxygène à partir de dioxyde de carbone et de l'eau, et crée un climat de champs, de forêts et de vie en général, transforme le désert dans un endroit où les gens peuvent vivre, où la puissance de l'homme sur la nature est accrue. Et ce que CEO aujourd'hui propose est de prendre cette lumière du soleil directe à un taux de densité énergétique vraiment très faible et l'appliquer directement. Et qu'est-ce que ça nous donne? Un désert. Mais si on l'applique à produire de la chlorophylle et à développer la végétation, là, on a d'une part une baisse de la température moyenne de la planète et on a toutes les richesses que ça dégage. Donc la question ici est que le spécimen a commencé par utiliser la lumière du soleil vers le fait de brûler le matériel combustible, vers le charbon, ensuite vers la pétrochimie, et maintenant qui a accru énormément le taux de flux énergétique, non seulement on accroît la productivité, on baisse la température, mais en même temps on crée des processus qu'on ne peut pas créer autrement. Quand on développe la fusion thermonucléaire contrôlée, on aura un plus haut niveau de densité énergétique. Et donc, notre objectif est d'aller toujours vers des densités de flux plus grandes. Parce que l'important n'est pas le nombre de calories de l'énergie, mais c'est la densité des flux énergétiques qui travaille à produire. Et donc, c'est partout dans le monde. On a besoin d'un changement du mode actuel de production. Par exemple, la puissance hydraulique n'est pas efficace. On peut l'utiliser. Mais la fonction de l'eau n'est pas principalement une puissance électrique ou énergétique, mais c'est pour promouvoir des processus vivants. Et donc on a notre énergie nucléaire de la fission nucléaire, parce que non seulement on peut avoir une puissance plus grande, mais en même temps, on peut produire par la chimie, c'est pas de la nature, on ne peut pas produire autrement. Donc si on n'a pas d'industrie nucléaire, nous allons mourir. Nous ne pouvons pas maintenir la population actuelle sans cela. La catastrophe ultime serait une société non nucléaire. Je ne pense pas, par ailleurs, qu'il n'y a pas un seul processus dans cette planète qui ne peut pas tuer des gens. Un corps ne peut tuer des gens. Donc, ne nous inquiétons pas que le fait que la capacité de gérer va aboutir à la mort des gens. Quand ceci peut se produire partout, tous les processus. Donc, ne craignons pas de faire les choses mal. Faisons les choses bien plutôt que de passer du temps à craindre les choses que nous ferions mal. Nous avons besoin d'au moins 5 centrales nucléaires construites dans cette planète chaque semaine. C'est un monde extasien. La quantité de puissance que ça implique. Et on commente que ça représente plus de puissance certainement qu'il y a dans le Congrès américain. La question prochaine est de Catherine Barrett de Cincinnati, Ohio. Sénatrice, je pense. Monsieur Larouche, nous devons réellement changer la situation de l'emploi dans notre pays, en particulier ici à l'Ohio. La chose qui m'inquiète, c'est que la crise de l'emploi ici a beaucoup d'impact sur la jeunesse, sur l'éducation. Je vois beaucoup de gens ici qui sont très intelligents, mais chaque jour, cette créativité se perd. Et je vois l'espoir disparaître. Et les raisons sont évidentes. Il n'y a aucune opportunité pour eux. On ne peut pas leur offrir quoi que ce soit de challengeant dans leur futur. Et c'est la façon dont les choses vont maintenant. Je vois que ces gens-là vont abandonner ou bien vont aller quelque part à l'étranger. Aux États-Unis, nous avons exporté des emplois et maintenant nous allons exporter des jeunes gens et leurs carrières. Comme on a vu, c'est beaucoup de vieilles personnes abandonner l'Europe au début du XXe siècle. Et nos jeunes pourraient peut-être se prendre le même chemin. Et la différence est que c'est au tournant du siècle, les gens ne cherchaient pas seulement un emploi, ils cherchaient un idéal, une idée. Et si cette idée, ce genre d'idée est morte, et si nos jeunes gens le voient, je pense que c'est la fin de notre nation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là-dessus? Premièrement, il faut éliminer les jeux vidéo, parce que les mêmes jeunes sont détruits, c'est par les jeux vidéo. Et cette même industrie pourrait être mise à bonne utilisation dans l'industrie, dans la machine-outil. Les gens devraient avoir accès dans leur programme éducatif. Ils devraient construire des des engins expérimentaux pour tester le principe physique. Et ce, ce type d'éducation allait avec, avec lieu dans une communauté où les gens travaillaient au développement de la machine-outil. Donc, c'est, voilà comment on pourrait les attirer à vivre certaines des expériences de la physique, de la biologie et autres. Donc, lorsqu'on éduque les gens de cette façon, lorsqu'on leur donne accès réellement à la découverte, là on leur donne accès presque à tout, parce qu'on développe leur capacité n'importe quoi, c'est vraiment tout. Donc je pense que Microsoft devrait payer une amende pour ce qu'ils font. Je pense que ces ordinateurs ne vont pas survivre longtemps. On n'a pas besoin de ces jeux vidéo, on a besoin de gens qui sont là pour découvrir le principe physique perso. Et la fonction dans la vie devrait fournir vraiment, c'est fournir aux jeunes gens l'opportunité de s'élever à ce type de découverte. Et au départ, ça paraît comme un jeu, mais c'est vraiment la science, c'est le fondement de la science. Voilà, c'est une situation dans laquelle les gens naturellement donc, pensent à ça parce que c'est donné. Nous devons cesser la destruction qui a lieu dans nos écoles où il n'y a pas ce type d'éducation à la découverte. On est en train de conditionner leur comportement. On est en train d'entraîner, de les entraîner à quelque chose. Mais nous ne les amenons pas à redécouvrir les grandes découvertes du passé. Et lorsqu'on est jeune, c'est adolescent, on fait ces choses-là parce que c'est drôle, parce que c'est amusant. Et si on commence à associer l'idée de s'amuser à ce type de travail de découverte, qui en plus est social, les gens partagent socialement ce type d'amusement. Et c'est dans ce contexte-là qu'ils développent des relations sociales qui sont beaucoup plus saines. Les gens apprennent. Alors qu'aujourd'hui, les gens ne développent pas de relations sociales saines dans l'école. Mais lorsqu'on partage des expériences de découverte comme base de processus d'éducation, ceci crée une stimulation à la fois, on peut aller plus loin, et en plus, c'est une forme de jeu qui développe des relations entre ce qui joue, qui est là, ensuite la fondation pour que les adultes soient eux-mêmes, pour la capacité des adultes là, connectés à un travail. Pour ceux qui nous écoutent à travers l'Internet, vous êtes effectivement devant une émission live à partir de Washington DC. Donc ici, nous avons une question de quelqu'un qui dirige une radio à New York. Monsieur Larouche, en 2006, une décision a été prise de laisser tomber l'industrie automobile. Est-ce que vous pouvez me dire comment cette décision a été faite et qui l'a prise? La décision a été essentiellement de réduire la population mondiale à moins de 1 milliard de gens. Et la façon dont on fait ce genre de choses, c'est qu'on détruit les pratiques qui nous permettent de soutenir une population de 6 milliards d'individus, 6 milliards et demi. Et donc, on laisse la nature prendre les dessus. Par exemple, on invente Al Gore. Prenons Al Gore. On a toute cette fraude du carbone. C'est une fraude totale. Il n'y a aucune base scientifique pour tout ceci. C'est un digamos, son, il n'y a aucune vérité. C'est alors quel est l'effet? L'effet est d'impire les gens à réduire la productivité de l'espèce humaine par habitant et par kilomètre. Alors, on réduit la population. Aujourd'hui, nous avons 6,5 milliards de gens. Mais qu'est-ce qui se passe si on baisse le niveau de vie de ces gens-là? Et ne mesurez pas ça en termes d'argent. Parce que c'est à quoi bon l'argent s'il n'y a rien à acheter? Regardez ce qui se passe avec les l'approvisionnement de nourriture. C'est donc sous la politique de Al Gore, de biocarburant. Donc, s'il y a le prix qui augmente. Regardez ce qu'on fait avec Monsanto. Monsanto n'a pas inventé la vie, non. Il n'a aucune patente sur la vie. Il n'a aucun droit à des royalties sur la vie. Il a inventé un type de semence. C'est donc qui est fait en laboratoire, qui va à l'encontre de toutes les autres semences et qui est proposé la sienne. Comme le gouvernement africain international, toutes ces choses-là sont de type de génocide. Et le but de ces politiques, c'est de réduire la population mondiale à 1,5 milliard de gens. De le faire rapidement. Et ce qu'ils font va marcher, à moins qu'on l'en empêche. L'industrie automobile, ça fait partie d'un processus de destruction de machines outils des États-Unis et d'autres pays. Si on réalise ce qu'est l'industrie automobile, toute la technologie qui est impliquée dans l'industrie automobile, et si on pense pas aux États-Unis, il n'y a plus une industrie, c'est l'économie industrielle. Et là, il faut baisser son niveau de vie, il faut réduire le nombre de gens qui pourront survivre, et ça, c'est-à-dire un génocide. C'est ça le problème. Mais le libéral dit, « Oh, vous ne pouvez pas dire ça, oh, arrêtez ça. » on a le droit à défendre nos idées, n'est-ce pas? Même c'est de mettre sa grand-mère dans la cheminée. Mais ils ont le droit, on a le droit à nos opinions. Est-ce que ce n'est pas l'opinion populaire? Comment osez-vous contredire l'opinion publique? L'opinion populaire. Il y a tellement de questions. C'est une question d'un responsable du Parti démocrate de Californie.
Monsieur LaRouche,
j'ai vu comment vous aviez prédit que la crise que la mobilité produite par la bulle immobilière de Greenspan. Mais la plupart des démocrates, y compris les élus de Californie, continuent à ignorer la crise, même alors qu'elle a commencé à dévaster des tas de villes et de banlieues. Qu'est-ce qui les empêche de bouger? Est-ce que c'est vraiment la crainte de Wall Street, comme certains membres du BIM Je ne comprends pas que cette crainte serait si grande. Est-ce que c'est l'ignorance de l'économie? Et ce que je ne comprends pas, je ne comprends pas qu'ils ne voient pas que agir dans cette arguments, ils devraient voir ça, parce que le peuple se demande ça. La raison pour laquelle ils font ça, c'est parce qu'ils sont un peu fous. C'est la même chose, c'est l'opinion populaire, c'est l'idéologie des baby boomers. Nous avons de l'arriération dans beaucoup de parties de la population. Ça a toujours été le cas. Je l'ai vu avant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque nous devions entraîner des gens qui sortaient vraiment des ghettos. Mais celle-ci est plus que simplement de la stupidité. C'est de la stupidité organisée. C'est le boomerisme. On a le même sophisme qui a été développé dans la Grèce pour amener les gens à détruire leur propre société à l'époque des guerres du Péloponnèse. Et c'est vraiment de remplacer l'opinion populaire, c'est la vérité par l'opinion populaire. Et dans la côte ouest, on l'appelle californication. C'est très, très fort. Quelle est la caractéristique? Vous savez aussi la façon dont il parle. La California uptalk.
Which means that nobody can understand what you're saying and you don't know what you're saying, so you were both...
Personne ne vous comprend et vous-même ne savez même pas. Personne ne vous comprend et même vous ne savez pas de quoi vous parlez. Le problème est l'opinion populaire. Pensez à combien de gens, par exemple, vous avez parmi des adolescents, on a deux types d'opinion populaire. L'opinion populaire des filles, c'est celle des garçons. Il y a les garçons populaires, les femmes, les filles populaires. Quelle est la plus grande place de gens? C'est d'être impopulaire. Crainte de ne pas être populaire. Ceci domine la société, voilà ce que c'est que le problème. Les gens sont très craintifs d'exprimer des visions non populaires, d'être perçus comme des gens qui ont... Personne n'est d'accord avec toi. Personne ne sera d'accord avec toi. Aucun de mes amis ne sera d'accord avec ce que tu vous dites. C'est du sophisme. C'est une fraude. C'est une perversion. Décadence morale. De génération. C'est pourquoi que nous l'appelons californication.
Ok.
Nous avons beaucoup de questions sur Franklin Delano Roosevelt. Je vais les résumer.
This starts out by saying, dear Mr. LaRouche, FDR was responsible.
Monsieur LaRouche, FDR a été responsable de certains des changements les plus dramatiques de notre pays. Sous FDR, la centralisation c'est beaucoup plus proche d'être réalisée dans d'autres administrations. Et c'était cette centralisation administrative qui a créé le fondement pour une présidence exécutive. Et en fait, c'est le roi George que nous avons aujourd'hui comme président. Alors, comment est-ce que nous traitons cela? Est-ce que FDR était réellement bénéfique à notre République ou bien est-ce qu'il a créé les bases de problèmes qu'il n'avait pas le problème? La possibilité d'anticiper. Une des raisons pour lesquelles je demande ça, c'est que vous dites, c'est dans la tradition de FDR, tout le temps. Et beaucoup de gens vous critiquent de la même façon que FDR. La première question d'une politique est la vérité, pas l'opinion. Quand l'opinion populaire est introduite comme un antidote à la vérité, c'est un problème. Pour comprendre les racines de tout ceci, la naissance de civilisation, de la civilisation, de, à partir du féodalisme et des empires, a eu lieu dans la Renaissance, avec le développement de l'idée de la vérité. Par exemple, ça a eu lieu au Concile de Florence, qui a mis fin à cette oppression. Après, les Espagnols et autres ont introduit à nouveau le système oligarchique. Il y a eu une lutte entre ceux qui voulaient imposer l'opinion populaire, qui s'appelait l'acquisition, et donc après, ceci s'est réincarné dans le système libéralisme. Et dans la Grèce ancienne, on appelait ça le sophisme. Le libéralisme était le sophisme. C'est la même chose que de faire des mensonges. Le libéralisme nie des principes, l'existence des principes universaux et dit que uniquement l'opinion populaire doit déterminer la politique de société et non pas la raison. Maintenant, la Constitution américaine est antilibérale. Et les critiques qui viennent d'être reportées ici, dans cette question, sont une attaque libérale contre la vérité. Aussi, le type de pratique. Qu'est-ce que Roosevelt a toujours fait? Il a mis fin à la tradition de Wilson. De Woodrow Wilson, c'est un menteur qui a fondé le Ku Klux Klan. Alors, ce n'était pas la démocratie. Le président des États-Unis, Wilson, a été le fondateur du Ku Klux Klan moderne. Voilà, est-ce que... Donc, cette opinion-là n'est pas populaire avec moi. Donc, pendant les années 20, lorsqu'il y avait la présidence de Coolidge, donc c'était des mensonges. Par exemple, le traité de Versailles était un grand mensonge. La guerre en Europe, qui a commencé en 1895 avec la guerre contre la Chine, par le Japon, qui avait été orchestré par les Anglais. Et ceci nous a amené dans des guerres. Et cette guerre, a été organisée par les Anglais. La Première Guerre mondiale après Versailles, c'était aussi la tentative des Anglais d'empêcher les pays continentaux de s'organiser autour de la paix. Et puis, à partir de là, on était vers la Deuxième Guerre mondiale. Le secrétaire d'État, a dit que l'Allemagne était le seul auteur de la Première Guerre mondiale, mais en fait, c'est l'Angleterre qui était l'auteur. L'Angleterre. Et Woodrow Wilson était un admirateur de cette Angleterre-là. Alors, dans les années 20, vous aviez les Melons sous Coolidge. C'est une bestialité. Et Roosevelt a changé tout ça. Il a rétabli le standard de la vérité, c'est-à-dire c'est le bien-être de la population. Il développe son droit à être libre. De puissance coloniale et d'autres d'oppression. Ce sont des principes qui faisaient partie de la Constitution. Et Roosevelt n'a fait rien d'autre que les appliquer. Ce type qui aujourd'hui attaque à Roosevelt sur ce type de questions défendent des mensonges, des choses fausse. Le point est que, contrairement à ce type de critique, la base de la loi est la vérité, non pas l'opinion publique. Roosevelt a défendu le citoyen lambda et il avait besoin d'être défendu à cette époque-là. J'entrais dans l'adolescence à cette époque et je voyais ce qui se passait dans les rues des États-Unis, dans les zones que je connaissais. J'ai vu le processus dans les années 30, j'ai vu les changements, j'ai vécu la guerre. Je sais ce que Roosevelt était. Et les critiques, c'est que vous faites contre Roosevelt sans aucun fondement. Et c'est la vérité. C'est donc Roosevelt n'est pas un oppresseur, mais ceux qui l'attaquent, oui, il était.
We have time for two more questions.
Nous avons le temps pour encore deux questions. Mais d'abord, j'aimerais bien montrer un appel aux gens pour aller regarder le site web de la Rouche, où donc la proposition de loi, la prochaine loi proposée par la Rouche pour empêcher de saisir les maisons et sauver les banques. Se trouve. Et nous avons une liste des États qui sont déjà en train de la considérer. Et si vous n'avez pas, si dans votre État, c'est donc la législation n'est pas en train de. N'a pas été présentée par le législateur, nous vous encourageons pour l'instant, donc en Pennsylvanie, dans l'Alabama, dans le New Hampshire, dans le Michigan. Dans l'Illinois et peut-être dans le Missouri. Dans le Tennessee et aussi il y a donc tout un mouvement de l'introduire pour l'introduire dans le Ohio et dans le New Jersey. Et si votre État n'est pas parmi ceux-là que je viens de mentionner, alors il faut le promouvoir. Et si votre État est dans le cadre bâti où ça a été produit, à ce moment-là, il faut que vous le souteniez pour que ça puisse vraiment être adopté. Parce que nous sommes vraiment. Nous avons que. Peu de temps pour agir. Alors, l'une des deux dernières questions, la première est la question inévitable sur la campagne présidentielle. Et j'en ai beaucoup qui vont. Alors. Ils disent sur les candidats à la présidentielle démocrate, on a Hillary Clinton qui est évidemment en tête. Qui dit souvent de bonnes choses, mais qui dit souvent de mauvaises choses, mais qui, pour une série de raisons, pourrait être amené à faire de bonnes choses. Alors, Kucinich est peut-être quelqu'un d'un peu étrange, mais il a donc lancé la campagne pour destituer Cheney et pour la part. Donc, c'est la fin de la guerre d'Irak, s'il veut une sécurité sociale. Et même s'il attire peu les médias, il est peu couvert par les médias, voilà, un démocrate, c'est qui est effectivement préoccupé par le commun de tous les Américains. Ces deux candidats ont des problèmes évidents, mais aussi des choses en leur faveur. Alors, ma question pour toi, est-ce que tu entends faire? Est-ce que tu vas endosser soit M. Kucinich, soit M. Clinton, soit Mme Clinton, ou est-ce que tu vas promouvoir un autre choix? Non, je ne vais pas faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Je vais souvent défendre Hillary comme je l'ai fait récemment. Parce que ce qu'elle a fait était juste et ceux qui l'ont attaqué avaient tort. Ce n'est pas un endossement, c'est juste une intervention dans le processus. À mon avis, il n'y a pas un candidat unique qui soit accepté pour être président. Donc ça n'a pas changé. Il n'y a pas eu cet accord de conversion sur la route de Damas. Dennis n'est pas qualifié. Il fait des choses utiles. On n'a pas besoin de se marier à lui. S'il fait quelque chose de bien, donnons-lui de crédit. Si Hillary fait quelque chose de bien, même si elle est attaquée, injustement pour la défendre. Mais ça ne veut pas dire les mariages. Nous avons besoin d'un président des États-Unis et pour l'instant, donc, nous n'en voyons aucun. Nous allons devoir faire quelque chose là-dessus et nous allons devoir regarder le processus qui arrive. D'abord, la conception de ce qu'un président devrait être. D'abord, il faut avoir la bonne conception de ce que doit être un candidat. Et ça, c'est manquant. Il doit être à l'image de Franklin Roosevelt et de le dire. On peut ajouter d'autres choses dans les périodes précédentes. Mais s'ils n'ont pas ça, ils ne sont pas qualifiés pour être président de ce sujet, ils ne pourront pas résoudre le problème. Est-ce qu'ils sont réellement capables de faire ce qu'il faut pour sauver ce pays, pour sauver la civilisation? C'est un péril qu'aucun de ces candidats n'est préparé à traiter. Donc, je vais dire la vérité. Il est probable que Hillary sera présidente, mais elle n'est pas qualifiée. Mais nous avons déjà eu d'autres présidents qui n'étaient pas qualifiés. Mais garder les choses claires, ne faites pas de ceci un concours de popularité. Il faut penser long terme. Ce que doivent représenter les États-Unis et ne jamais se compromettre. Il y a trop de compromis sur l'opinion populaire. Et lorsque on doit dire la vérité, moi, je dis la vérité. Elle n'est pas qualifiée, les autres ne sont pas qualifiés. Elle est la moins mal qualifiée. Donc, je vais fermer avec cette question soumise par quelqu'un de Pennsylvania. Elle voulait poser sa question elle-même, mais elle a posé. Monsieur Larousse, regardons sa longue vie, c'est de dire la vérité. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le passé que tu penses que tu aurais dû dire plus au mieux? Considérant mes circonstances, je suis content.
As his spokesman, I'll do it for him.
En tant que sa porte-parole, je le ferai pour lui. Lynn a eu raison depuis des décennies. Il est temps que beaucoup de gens commencent à l'écouter et à parler et à le dire publiquement, à dire qu'il a raison, que le futur de cette nation, de la civilisation, dépend de suivre ce qu'il a dit.
And you don't have to be his spokeswoman to say that.
Et vous n'avez pas besoin d'être sa porte-parole, c'est pour dire ça. Monsieur Dame, vous avez été un bon public, nous avons beaucoup de choses à faire. Et bien que je dirais qu'on a fait des progrès, qu'on fait des progrès tous les jours, on est aussi au milieu de cette crise gravissime, et chaque jour qui passe, où ces actions n'ont pas lieu. Et Oulin n'est pas mis dans une situation où il a la capacité de réellement guider ce processus directement. Les gens souffrent, donc il faut que nous allions de l'avant. Beaucoup de questions ont été soumises, d'articles sur d'autres parties du monde. Les questions qui sont soumises, qui ont été transmises par des responsables syndicaux, toutes ces questions lui seront soumises et il répondra à toutes par écrit. Donc, s'il n'y a pas d'autre chose que Larouche voudrait rajouter, je vais mettre fin à cette conférence Internet et vous proposer que vous travaillez dur dans les prochaines semaines. Merci, merci beaucoup à vous tous.